Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Quand l'historien Jean-Baptiste Durosel élabora sa théorie des relations internationales, il ne trouva pas mieux que d'illustrer son travail, son propos, par ce titre paradoxal « Tout empire périra ». L'idée ou le concept politique d'empire renvoie à celui de grandeur, parfois de démesure, mais il peut aussi évoquer celui de paix ou encore d'unité dans l'assimilation des contraires. Oui, vous l'aurez compris, il est difficile de définir l'empire qui, au fil des âges, au fil de l'histoire de l'humanité, renvoie à des réalités bien différentes. L'empire napoléonien n'est pas l'empire romain et l'empire de Charlemagne n'est pas l'empire américain. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un des grands empires de notre histoire, l'empire d'Eurasie, plus connu sous le nom d'empire de Russie ou empire russe. Caractérisé par la continuité territoriale et par l'unité de deux continents, l'Europe et l'Asie, l'Empire russe occupe la troisième place dans l'histoire des empires, derrière celui des Mongols et des Britanniques. Sa durée, presque cinq siècles, fut aussi remarquable et renvoie à une stabilité réelle qui lui permit notamment d'être un temps américain par la possession au XIXe siècle de l'Alaska. Alors, comment naquit cet empire d'Eurasie? Quelles en furent ses origines? Comment définir la Pax Russica? Quels furent ses éléments de stabilité puis de rupture au cours de son histoire? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Hélène Carrère-Dancausse. Hélène Carrère-Dancausse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Un jour dans l'histoire et de Canal Académie. Vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie française, spécialiste incontestée de la Russie, sur laquelle vous avez écrit de nombreux ouvrages. Et vous venez de publier aux éditions Fayard, l'Empire d'Eurasie, une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours. Alors, ma première question, Hélène Carrère-Dancausse, sera, si vous me le permettez, une question biographique. D'où vous vient cette passion de la Russie?
Je dirais d'abord certainement d'origine russe, mais j'ai des origines diverses européennes. Par conséquent, j'aurais pu aussi bien m'intéresser à l'Allemagne, à la Suède, à l'Italie, à peu près à tous les pays d'Europe. Je suis une européenne de génétique. Il se trouve que j'ai été dotée dans mon enfance, je suis née à Paris, mais j'ai été dotée par la volonté de mes parents de la langue russe. J'ai parlé russe comme en même temps que j'ai parlé français. J'ai été envoyée dans ma petite enfance dans l'école paroissiale où on n'apprenait pas seulement la grammaire russe, mais aussi l'histoire, la littérature. Je suis vraiment biculturelle, peut-être triculturelle, avec une culture anglaise aussi, mais enfin, fondamentalement biculturelle. Par ailleurs, j'ai toujours eu un goût très vif d'histoire dès ma petite enfance. J'ai su lire dans les deux langues à 5 ans et au fond, j'ai lu. Je n'ai jamais eu dans mon enfance de bande dessinée, ni rien de semblable, encore que si on m'avait donné Astérix, après tout, on y apprend l'histoire. Mais je crois que les bandes dessinées de mon enfance n'étaient pas très bonnes, au point de vue historique. En tout cas, je n'ai eu ni cela, ni des livres d'enfants proprement dit. Et j'ai eu un goût très vif de l'histoire. Quand j'ai fini mes études, j'ai décidé que j'allais l'appliquer à quelque chose qui est un grand problème de notre temps. Alors, il y avait trois problèmes. Ce qui s'était passé au cœur de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne. C'était une page terminée, je ne pensais pas que ça méritait ça. Je dirais qu'il y avait pour moi deux grands mystères, la Russie, et c'était le communisme de la Russie, ou la Chine. Le chinois, ça je reconnais que c'est de la paresse, peut-être un manque, je dirais, c'est pas d'empathie avec la Chine, mais d'empathie avec la langue chinoise. En tout cas, j'ai découvert très tôt quand je me suis posé la question qu'il eût fallu que je consacre plusieurs heures par jour à apprendre le chinois, tandis que je disposais d'une langue, et d'une langue et d'une compréhension. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers la Russie. C'était tout de même le cœur d'un système qui bouleversait l'Europe, qui l'a coupé en deux. Ça m'a paru mériter l'effort, et c'est à ça que je me suis intéressé. Mais néanmoins, je voudrais dire que je ne suis pas parti de la Russie. Je suis parti des confins, je suis parti de la politique soviétique au Moyen-Orient, du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, c'est-à-dire de pays musulmans, plutôt turcophones. J'ai fait l'effort d'apprendre le turc, que j'ai d'ailleurs mal appris et pratiquement oublié. J'ai fait de l'arabe que je ne dominais guère. Mais enfin, j'ai essayé de me doter des outils nécessaires et le turc m'a servi quand j'ai travaillé à une thèse sur l'Asie centrale.
Alors, nous reviendrons bien évidemment, Hélène Carrère-Danco, sur cette question de l'islam et de la Russie qui est très présente dans votre ouvrage. Mais venons-en, si vous le voulez bien, aux origines. Dès les premières lignes de votre ouvrage, vous présentez le XVe siècle comme une époque charnière pour la Russie. Et à vous lire, on sent un peu que les débuts correspondent au fond au début de la France, c'est-à-dire que le tout, la Russie, se forme autour d'une principauté.
Oui, avant de se former autour d'une principauté, il y a eu quelque chose que la France n'a pas connu. C'est un déplacement géographique extraordinaire, parce que la Russie a eu son berceau à Kiev, qui a été ravagé au XIIe siècle par les envahisseurs mongols. Et les hommes, les idées, se sont déplacées vers le nord de la Russie, vers des principautés qui ont connu longtemps des relations assez fratricides, parce que c'était des principautés qui avaient des relations de parenté, et l'a emporté progressivement une principauté qui était géographiquement bien placée, mais ce n'est pas la géographie qui a tout déterminé, c'est la principauté de Moscou. Et les princes de Moscou se sont faits, d'abord les dominateurs des autres peuples, ils ont été au départ, c'est très intéressant, des colonisateurs à cette époque. L'espace était envahi par la branche des Mongols qui s'était installée là, c'était les Tatars, c'est-à-dire des Mongols islamisés, et qui remontant des bords de la Volga, étaient montés jusqu'au nord et jusqu'aux principautés hanséatiques. Ils avaient tout ravagé et en même temps, je veux dire que ce n'étaient pas des destructeurs complets, ils étaient porteurs d'une certaine culture. Les princes de Moscou ont compris l'avantage qu'il y avait à en tirer. Ils ont au fond pactisé avec les Mongols pour être leurs intermédiaires. Ils levaient l'impôt au nom des Mongols et ils se sont fait reconnaître comme les représentants, les porte-parole de ces principautés dispersées. Ça a été la première étape. La seconde étape a été un certain rassemblement sous cette autorité assez ambiguë, c'est-à-dire issue des Mongols, qui avaient reconnu le rôle central de la principauté de Moscou. Et la troisième étape a été, quand la principauté de Moscou a été assez forte par cette politique de rassemblement, a été l'étape militaire, où les princes de Moscou, après une première tentative ratée, ont vaincu les Mongols, ou les Tatars, comme on veut, et se sont posés en libérateurs de la terre russe. Donc, si vous voulez, à partir de là, c'est le début de la Moscovie. Et la Moscovie s'est élargie pour devenir la Russie. C'est extrêmement intéressant parce que c'est un processus de rassemblement qui s'est fait dans la reconquête.
Alors, votre titre, l'Empire d'Eurasie, le titre de votre ouvrage, pourrait surprendre. On s'attendrait à un titre comme l'Empire russe. Et pourtant, dès les premières pages de votre ouvrage, vous affirmez le caractère eurasien de ce futur empire.
Alors, parce que je crois que c'est son originalité. Vous avez évoqué tout à l'heure un de ses traits fondamentaux, c'est un empire d'un seul tenant, dès qu'il commence à s'organiser, et il le sera tout au long de son existence, avec juste une petite incidente au moment de l'installation en Alaska et une tentative de coloniser la Californie, mais ça n'a pas duré. Au fond, les souverains russes ont trouvé que l'Alaska, il y avait un peu de mer entre leur espace continental et leur possession d'Alaska, et c'est ça qui est caractéristique, ils n'ont jamais voulu aller plus loin. Pour voir surgir l'idée de conquête au-delà des mers, il faut attendre le pouvoir soviétique et la fin du pouvoir soviétique sous Léonid Brejnev. Donc cette volonté d'un continuum, c'est la première notion et au fond ça rappelle l'Empire romain à cet égard. D'ailleurs l'Empire russe rappelle beaucoup l'Empire romain. L'autre caractéristique, c'est que très vite cet empire est allé dans toutes les directions dès le XVIe siècle. Si vous voulez, ça vient tout de suite. 1552, mon point de départ, c'est le moment de la libération nationale, si l'on peut dire, le moment où la Moscovie a réussi à vaincre les Tatars. Mais dès la fin du XVIe siècle, le début du XVIIe siècle, commence l'appropriation de la Sibérie, qui n'a pas été une conquête militaire, qui a été un don pratiquement fait par des marchands de fourrure qui ont avancé en Sibérie, parce que la fourrure était l'objet le plus utile ou la marchandise la plus utile sur les grands marchés mondiaux à cette époque-là. La fourrure et un certain nombre de pierres semi-précieuses. Et ils se sont installés là, et après, l'Empire est arrivé. Il n'a même pas eu à conquérir militairement, il y avait des petits peuples dispersés. Mais dès la conquête de la Sibérie, une partie au-delà de l'Oural, c'est l'Asie. Et dès le milieu du XVIIe siècle, l'Empire est d'Eurasie. Et ça a été le grand débat. Alors, il s'est étendu par là, il s'est étendu vers l'Europe aussi. À peu près à la même époque, va s'opérer en 1654 l'union de la Russie et de l'Ukraine. Ça, c'est une progression en Europe, mais on peut dire que la marche a été toujours dans les deux sens. Ensuite, elle s'est opérée vers le sud, c'est-à-dire vers l'Asie islamique. Ce qui est caractéristique de tout cela, si vous voulez, c'est que la Russie n'a jamais été claire dans son unité avec elle-même, ni les Russes. un grand débat de la Russie, ce n'est pas seulement le débat sur la voie à suivre entre la voie européenne ou une voie spécifique. Le grand débat, c'est qu'est-ce que la Russie? Quelle est l'identité russe? C'est un débat qui commence extrêmement tôt. Et l'espace, cet espace eurasiatique, a déterminé au fond quelque chose qui a été implicite et qui n'est explicité vraiment que maintenant, la notion d'Eurasie. C'est une notion qui apparaît en 1920, forgée par des émigrés. Et aujourd'hui, ce qui me frappe en Russie, il y a des revues qui s'appellent Eurasie. La Russie se revendique désormais cette qualification, car elle a perdu une partie de son empire, mais elle n'a pas perdu sa dimension eurasiatique. Et elle a très bien compris que c'était ça, son originalité. Pour les souverains russes et pour les penseurs, cet espace continu qui ne ressemble à aucun autre espace, qui n'est pas un espace impérial de type classique, hein, parce qu'il n'est pas coupé, il n'y a pas une métropole et des colonies, il y a une continuité. Une fois encore, il n'y a que l'Empire romain à quoi on puisse comparer cet espace. La dimension eurasiatique a toujours donné un caractère particulier à la Russie, et particulièrement alors aujourd'hui, où véritablement il y a une division extraordinaire, je dirais, du travail et du peuplement, puisque le peuplement se trouve dans la partie européenne de la Russie, les ressources dans la partie asiatique, et les puissances montantes, la géopolitique, fait que c'est la partie asiatique qui incarne l'avenir, par les ressources et par les grands voisins, que sont les grandes puissances, que la Chine, le Japon, l'Inde et tout cela. Donc, si vous voulez, la Russie, elle a eu une vocation européenne, mentalement, culturellement, et en même temps, son destin historique l'a poussé à assumer les deux vocations que son territoire lui permettait.
Alors, nous allons revenir vers notamment cette vocation européenne, mais on ne peut pas s'empêcher d'évoquer un personnage que l'on a tous appris ou approché alors que nous étions jeunes, c'est ce fameux Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, nous revenons aux origines, donc au milieu du XVIe siècle. Qui était ce personnage?
Alors, ça a été un souverain, vous avez raison, c'est un personnage tout à fait hors du commun, et qui lui aussi, d'ailleurs, comme à peu près tout en Russie, à deux aspects. On en garde à cause du cinéma, à cause un peu de l'imagerie d'Épinal, le souvenir le plus terrible, c'est-à-dire le souverain, d'abord qui a assassiné son fils avec un pieu. La peinture a fixé ça. Le souverain qui a confié une partie du pays à une bande de brutes, les opritchniks, c'est-à-dire des hommes sans foi ni loi, qui faisaient régner leur propre loi. Ça a été leur domaine. Donc, qui a dominé la société. C'était en même temps un souverain modernisateur dans une première partie de sa vie. Il a eu une première partie où il était un homme normal.
La charnière, c'est
la mort de sa femme. Et comme il avait l'esprit porté vers la conspiration, il a décidé très tôt que sa femme avait été empoisonnée pour le débarrasser ou pour débarrasser la Russie de tout ce qui était la famille de sa femme, de toute une partie des boyards, la société des boyards. Et à ce moment-là, il a sombré dans une sorte de paranoïa de la violence et de la puissance et de la méfiance. Mais c'est tout de même le souverain qui a réussi à prendre Kazan, qui a réussi la reconquête. La première reconquête a été l'œuvre des premiers princes russes, des premiers princes moscovites. Mais là, la Russie existe et Ivan le Terrible va progresser vers le centre de la domination tatare, vers Kazan. Et 1552, c'est son œuvre.
Je reçois Hélène Carrère-Danco, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et nous évoquons l'Empire d'Eurasie, qui est le thème de son dernier ouvrage paru aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons dans un instant.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Hélène Carrère-Dancos, auteur du livre « L'Empire d'Eurasie, une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours » paru aux éditions Fayard. Alors nous venons d'évoquer ce personnage, Ivan le Terrible. Nous avons évoqué la conquête qui se tournait vers la Sibérie. Quand est-ce qu'on peut dire que la Russie se tourne réellement vers l'Europe et commence à entériner ses premiers succès en Europe?
Alors, elle s'est tournée à deux reprises, véritablement, je dirais jusqu'avant le XVIIIe siècle. La première phase, c'est... Bon, l'Europe était représentée par la puissance suédoise, pour elle, par la puissance polonaise, et par l'indépendance ukrainienne. L'Ukraine était catholique, il faut tout de même pas oublier qu'il y a le problème de la séparation des églises. L'Ukraine représentait le monde de la romanité, parce que la Russie, le choix de la chrétienté russe avait été fait à Byzance par Vladimir en 988, le prince de Kiev. Mais malgré ça, l'Ukraine a été le domaine du catholicisme, c'est-à-dire du monde romain. Alors, la première étape, je dirais, de progression vers l'Europe a été l'union avec l'Ukraine en 1654, qui a été l'œuvre du second prince Romanov, Alexis, qu'on appelait Alexis le très doux, le très paisible, le père de Pierre le Grand. Et ce souverain, il est aussi, tout est paradoxal en Russie, il est toujours représenté dans des habits orientaux, dans des habits byzantins. On a l'impression que ce n'est pas une vocation européenne. Or, c'était un homme qui était tourné vers l'Europe, qui connaissait plusieurs langues européennes, qui voulait envoyer des étudiants en Europe, qui voulait faire venir des techniciens, ce que fera plus tard Pierre le Grand, et qui a réussi à rattacher l'Ukraine à son pays, ce qui d'ailleurs n'a pas été une entreprise simple, parce que les Cosaques qui dominaient cet espace ont à plusieurs reprises essayé de se rattacher à la Russie, et le souverain russe hésitait. Et pour finir, donc au milieu du XVIIe siècle, Alexis le Très Doux a décidé d'accepter ce rattachement. C'est un chef cosaque, Bogdan Khmelnytsky, qui a décidé ce rattachement. Pour le tricentenaire, en 1954, s'est passé un épisode extrêmement intéressant, c'est que Nikita Khrushchev, qui était ukrainien d'origine, a décidé de faire cadeau à l'Ukraine, République soviétique, de la Crimée, qui était véritablement une terre enlevée aux Tatars, mais qui était une terre russe. C'est dire que le problème des relations avec la Russie avec l'Ukraine a toujours été très compliqué. En tout cas, l'entrée de la Russie en Ukraine ou le rattachement a une signification européenne. Parce que ça veut dire que la Russie avait les pieds dans un espace qui était ouvert sur l'Europe, qui était marqué par la religion catholique, par l'Empire romain. Elle a eu, parmi ses clercs, des hommes venus d'Ukraine. Et ça a été une grande avancée européenne, territorialement. Elle a avancé au cœur de l'Europe. Alors, l'étape suivante a été véritablement consacrée par le fils d'Alexis, Pierre le Grand, qui a battu les Suédois. C'était une revanche formidable sur la Suède, puisque jusqu'alors, la Suède était la menace perpétuelle sur la Russie.
C'était également l'affirmation d'une puissance, cette fois aux yeux de l'Europe.
Ah, absolument. Ce que Pierre le Grand a obtenu, partiellement, tout n'a pas été acquis. Il a obtenu la reconnaissance par l'Europe que la Russie existait dans l'espace européen. Jusqu'alors, c'était un pays très bizarre que les voyageurs regardaient d'un œil inquiet, ils s'y rendaient et ils avaient l'impression d'être dans un univers qui était totalement étranger à l'espace européen. Pierre le Grand a voulu ouvrir une fenêtre sur l'Europe. Il a conquis, ayant battu Charles XII, il s'est trouvé au cœur de l'Europe, enfin au cœur de cette partie de l'Europe. Il a installé la Russie sur les bords de la Baltique, c'était aussi un problème. La Russie n'avait pas d'accès aux mers. C'était une grande ambition et il y a transporté sa capitale. Donc ça, c'était une européanisation et sa capitale, il l'a fait construire sur un modèle européen. Et l'étape suivante, c'est Catherine II au XVIIIe siècle, alors qu'en s'emparant d'une partie de la Pologne qu'elle a partagée avec la Prusse et avec l'Autriche, a progressé encore dans l'espace européen, a fait avancer la frontière de la Russie, très loin dans l'espace européen. Alors la Russie, qui était jusqu'alors à l'écart de l'espace européen, s'est étalée depuis les rives de la Baltique jusqu'au sud de l'Ukraine. La conséquence de ça a été que pour finir, l'Europe politique, qui était largement conduite par les rois de France à cette époque, qui était très réticente à tenir la Russie pour un pays européen, à lui reconnaître le droit de jouer dans la cour des grands. La cour des grands, c'était les pays d'Europe. La vie internationale, c'était ça. Après la conquête de Catherine II a admis que la Russie était un pays européen.
Vous dites qu'elle intervient lors de la guerre de 7 ans, normalement.
Sous l'impératrice Élisabeth, la fille de Pierre le Grand, qui est la quatrième héritière après Pierre le Grand. Alors, l'impératrice Élisabeth est intervenue dans la guerre de 7 ans. C'est intéressant parce qu'elle n'était pas portée sur la politique en général. Elle était européenne parce qu'elle aimait les modes françaises, elle aimait le style français, mais elle n'était pas très active dans la vie politique. Elle avait des favoris. Mais néanmoins, son intervention a placé la Russie dans le cœur des puissances européennes. Mais néanmoins, les rois de France ne voulaient pas reconnaître à la Russie, ni aux empereurs de Russie, ni le titre impérial, parce que c'était la reconnaissance d'une puissance, ni une place protocolaire européenne. Et c'est Catherine II qui a obtenu ça. Pour finir, Élisabeth l'a obtenu un court instant. Catherine l'a obtenu véritablement, elle l'a imposé, et elle a imposé qu'on change le protocole européen, car pour Louis XV, la Russie se trouvait à l'avant-dernier rang des États d'Europe.
Vous parlez de Catherine II, vous avez écrit une biographie sur Catherine II, parue chez Fayard. À un moment dans votre ouvrage, vous essayez de, non pas de la comparer à Pierre, mais en tous les cas de voir ce qui les unit et ce qui les sépare.
Oui, d'abord ce qui les sépare, c'est que tous les deux ont voulu être les introducteurs ou les installateurs de la Russie en Europe. Ils ont voulu la fixer en Europe et imposer à l'Europe l'idée que la Russie était un grand pays européen. L'œuvre de Pierre le Grand a été affaiblie après sa mort, tout simplement parce qu'il y a eu une série de successions qui se sont déroulées, qui étaient mal réglées, et le prestige international qu'il avait acquis a été totalement dilapidé. Il n'y a justement que l'impératrice Élisabeth, par son intervention dans la guerre de 7 ans, qui a réussi à rétablir sa vie. Elle était la fille de Pierre le Grand, ça jouait un certain rôle. Avec Catherine II, l'œuvre de la Russie devient durable. Pierre le Grand avait essayé d'avancer. Il avait installé la Russie sur les bords de la Baltique. Il avait essayé d'aller sur les bords de la mer Noire. C'était son grand rêve, puisque c'était un homme qui avait une passion des mers et de la navigation et des bateaux. Et sur la mer Noire, il avait commencé par remporter des victoires contre l'Empire ottoman. Et puis, il a échoué et il a dû se replier vers l'espace russe. Catherine II a achevé le dessein de Pierre le Grand, c'est-à-dire qu'elle a conquis les rives de la mer Noire, elle a conquis la Crimée. Et à partir de son règne, la Russie est à la fois un pays d'Europe et un pays de la mer Noire. Ce qui les unit, je dirais, c'est que Catherine II a tiré sa légitimité de son statut de continuatrice de Pierre le Grand. Elle s'est placée dans ses pas, tout en étant, et ça c'est une différence, Pierre le Grand était tellement occidental que tout ce qui était russe l'insupportait. Il trouvait que c'était des barbares, c'est faire couper les barbes, changer les habits. Il souhaitait être, je dirais, donner à la Russie un aspect qui ne fût pas russe. Et par exemple, il déteste la religion de la Russie, c'était la religion orthodoxe. Il trouvait que c'était une religion, justement, attardée, barbare, qui donnait le caractère russe à la Russie. Et il privilégiait, dans la mesure du possible, les protestants, ou même les catholiques. Tout lui était bon. Catherine II, à la différence de Pierre le Grand, c'est-à-dire Pierre le Grand était russe. Catherine n'avait pas une goutte de sang russe, elle s'était emparée du trône. Elle, c'était une petite princesse allemande qui avait été protestante d'origine, qui avait été convertie à l'orthodoxie, qui avait appris le russe. Elle s'est investie dans la Russie et elle a aimé ce qui était russe. Elle a considéré que la Russie pouvait être un très grand pays d'Europe en privilégiant le caractère russe. Elle a privilégié la religion orthodoxe, quoique elle ait réussi à se réconcilier avec l'islam. Et la Russie était devenue déjà un grand pays d'islam sous son règne. Elle a accueilli les jésuites alors que le pape les avait condamnés et qu'ils avaient été expulsés de France. Elle les a accueillis parce que c'était une marque d'indépendance à l'égard des rois de France et à l'égard du Vatican. Ça marquait la grandeur d'un grand pays qui ne dépendait pas du Vatican. Mais en même temps, elle a affirmé qu'elle était légitime parce qu'elle achevait ce que Pierre le Grand avait commencé, c'est-à-dire qu'elle achevait un grand empire, elle achevait la position internationale de la Russie. Elle la faisait reconnaître comme un grand pays d'Europe avec des territoires sans cesse étendus, c'est-à-dire qu'elle a consolider l'Empire, et pour dire les choses comme elles sont, l'Empire de Catherine II a duré. Il y a eu la coupure de la Révolution, mais les bolcheviks ont reconquis les espaces perdus, à l'exception de la Pologne, mais ils ont remis la main dessus en 1945, jusqu'en 1991, jusqu'à la fin du système soviétique. L'espace impérial, exception faite de la Finlande, a survécu. C'était l'espace de Catherine II.
Oui, donc vraiment, le XVIIIe siècle est un tournant politique.
Absolument.
Et géopolitique.
C'est un tournant qui installe la Russie en Europe. C'est un tournant qui conforte sa situation d'empire multidimensionnel. Il reste à conquérir, mais c'est déjà un empire, si vous voulez, installé sur les bords de la mer Noire, installé en Crimée, installé en Ukraine, installé en Pologne. Il restait à conquérir le sud. Le sud, ce sont les terres d'islam qui jouxtaient l'Empire ottoman, l'Iran et même l'Afghanistan. Ça, ce sont les conquêtes de la seconde partie du XIXe siècle. Ce sont les héritiers, les petits-fils et le Caucase, ça a été les petits-fils et les arrière-petits-fils de Catherine II qui ont accompli ces conquêtes. Et l'Empire a été achevé dans sa structure territoriale définitive en 1895 par la délimitation des frontières avec l'Afghanistan.
Alors, il y a une question qui est très importante au XVIIIe siècle, c'est la question polonaise. Alors, nous sommes très marqués par la Pologne, notamment par le fait d'avoir eu un pape polonais. Et pourtant, cette Pologne, elle subit de nombreux aléas. Et au XVIIIe siècle et au XIXe siècle.
Oui, alors ce qu'il faut dire pour bien comprendre le problème, c'est qu'avant les tragédies qui ont marqué son destin, la Pologne a été une énorme puissance de cette partie de l'Europe. C'était le royaume de Pologne-Lituanie qui disposait d'une partie de l'Ukraine, qui dominait largement des terres disputées à la Russie. Donc c'était le grand pays avec la Suède. Et c'est Catherine II vraiment qui a inversé la situation. Alors c'est une affaire intéressante parce qu'on a toujours retenu dans l'histoire que Catherine II a organisé les partages de la Pologne. C'est pas tout à fait ça. Catherine II avait eu l'intelligence de faire porter sur le trône de Pologne, quand elle est montée sur le trône elle-même, la Pologne se trouvait dans une situation de faiblesse, elle était affaiblie non plus. Elle a perdu sa puissance, non plus parce que des coups lui avaient été portés de l'extérieur, mais pour des raisons qui lui étaient internes. Elle avait un système qui était le liberum veto, qui faisait que tout représentant d'une assemblée qui n'était pas d'accord bloquait absolument toutes les décisions. Et il y avait des confédérations, qu'on appelait des confédérations, c'est au fond des espèces de forces armées autour d'un chef qui toutes se combattaient entre elles, ce qui fait que c'était un climat de dissolution de toute autorité qui était considérable. Et le roi de Pologne était en général élu par les souverains voisins. Il y avait une bataille pour l'élection de chaque élection du roi de Pologne, c'était une affaire très grave. Alors il y a eu les rois qui étaient élus par la volonté du roi de France, ceux qui étaient élus par la volonté du souverain autrichien. Alors Catherine II a eu l'intelligence de faire porter sur le trône de Pologne Stanislas Auguste Poniatowski, qui avait été son amant dans sa jeunesse. Et elle s'était dit que ça, c'était le moyen d'avoir une influence en Pologne, d'avoir un espace d'influence. Ce qui montre bien que les partages ne sont pas une idée qui est venue tout de suite à l'esprit. Et au fond, sa préférence a toujours été pour exercer une influence sur la Pologne en écartant de la Pologne les deux autres chasseurs d'influence qui étaient la Prusse et l'Empire d'Autriche. Et les choses se sont faites de la façon suivante. D'une part, Stanislas Auguste, une fois qu'il a été sur le trône de la Pologne, a considéré qu'il n'était pas du tout le roi de Catherine II, mais qu'il était le roi de Pologne et qu'il convenait de mettre de l'ordre pour affirmer l'indépendance polonaise. Et donc, à ce moment-là, les relations se sont aigries avec la Russie. Que par ailleurs, l'Autriche et la Prusse ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de laisser à la Russie toute seule une influence en Pologne. Et tout le monde a commencé à grignoter du territoire polonais. Donc, il y a au fond trois larrons qui se sont entendus pour dépecer la Pologne. Et je dirais que jusqu'au bout, ça s'est fait plutôt... Il y a eu quatre partages, hein, et le dernier étant en 1795, à la veille de la mort de Catherine. Je dirais plutôt que ça s'est toujours fait contre Catherine, qui a toujours essayé d'écarter les autres et d'avoir plutôt une sphère d'influence, mais qui a été contrainte de partager ce qu'elle ne souhaitait pas faire. Le résultat, c'est que la Pologne a disparu de la carte en 1795. Elle a espéré un moment avec le règne du petit-fils de Catherine, Alexandre Ier, qui avait des idées généreuses, qui en 1815 avait avancé l'idée d'une restauration de la Pologne. Les Polonais ont espéré que la Russie pourrait être le protecteur d'une indépendance retrouvée. Mais en fait, ça a été une affaire manquée. Et la Pologne n'a retrouvé son indépendance qu'en 1918. Pour une période 1918-1939. Puis ensuite, elle est retombée sous occupation, puis sous influence. Et son indépendance remonte au lendemain de la chute du mur de Berlin.
Je reçois Hélène Carrère-Dancausse. Alors, la grande question est de savoir comment gouverner un tel empire, comment maintenir cette Pax Russica. C'est ce que je vous propose, Hélène Carrère-Dancausse, de voir dans un instant. À tout de suite.
Canal Académie.
Je reçois Hélène Carrère-Dancausse de l'Académie française, auteure de L'Empire d'Eurasie, une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours, parue aux éditions Fayard. Alors nous avons vu, Hélène Carrère-Dancausse, l'aspect chronologique, le développement géographique de l'Empire russe. Allons, si vous le voulez bien, vers l'aspect plus culturel et politique, vers cette fameuse Pax Russica auquel vous consacrez de longs chapitres. Comment maintenir politiquement un tel empire ?
Alors, je dirais, cela aussi, l'originalité territoriale et culturelle de l'Empire russe a imposé des solutions originales. Il faut bien dire que, si vous voulez, l'Empire russe, à la différence de l'Empire français ou de l'Empire britannique, qui était moins difficile à gouverner parce que la métropole était loin, le choix, c'était, faut-il avoir une administration lourde ou pas une administration lourde ? Mais la population de la métropole et de la périphérie ne se mêlait pas. Des colonies ne se mêlaient pas. L'Empire russe, c'était le même espace. Et c'est ce qui a conduit l'Empire russe, je dirais, là aussi, à s'inspirer de l'Empire romain, incontestablement. Il y a eu un petit peu la même idée que l'expansion territoriale supposait une Pax Romana et la Russie a eu la Pax Russica. Alors, ce qui compliquait la situation, c'était les civilisations très différentes. Les civilisations européennes étaient chrétiennes, la civilisation islamique était d'une nature totalement différente. Les relations avaient été conflictuelles après les conquêtes. Ivan le Terrible avait voulu non seulement ignorer, mais détruire l'islam. Il avait fait fermer les mosquées, on convertissait d'autorité les enfants musulmans. Il était interdit de pratiquer le culte musulman. On avait eu l'idée, la première étape, c'était d'éradiquer complètement la différence et de fabriquer sur tout l'espace de l'Empire russe des peuples semblables. Mais en même temps, la dimension sibérienne compliquait le problème parce que là, on avait affaire non plus à des civilisations comme on avait avec les peuples musulmans, mais à des tout petits peuples aborigènes qui étaient des peuples de chasseurs, de pêcheurs, qui sont extrêmement dispersés, extrêmement limités numériquement, sans relation avec les voisins, sans aucune tradition politique ou relationnelle, et qui, de surcroît, en général, n'avaient pas de langue. Ils communiquaient par des moyens plus primitifs, ils n'avaient pas de langue écrite. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire avec eux? Comment faire, dans un même empire, trouver un statut pour des peuples aussi distincts? Alors, la solution a été d'abord une solution administrative assez intelligente, qui a consisté à ne pas avoir un système uniforme, mais à traiter tout le monde différemment, avoir des statuts différents selon qu'il s'agissait. D'abord, il y avait une différence, il y avait les chrétiens et les pas chrétiens. Ça, c'était une première différenciation. Ceux qui étaient chrétiens étaient considérés comme des sujets de l'Empire russe. Les non-chrétiens, qu'on appelait les inarotse, d'autres, c'était les autres, avaient été traités selon un statut particulier. Et notamment, les musulmans qui n'étaient pas chrétiens ont eu droit à un traitement. Ce n'était pas discriminatoire. À certains égards, c'était favorisé. Ils ne fournissaient pas de conscrits pour le service militaire. Ils échappaient au service militaire. On prélevait un impôt, mais ils échappaient au système général. Et quand, dans la guerre de 14, la Russie se trouvait démunie de troupes et qu'elle a dû faire appel pour fournir l'arrière à des musulmans, ça a été le début de la révolte. Donc, si vous voulez, il y avait des statuts différents. À partir de là, donc, des systèmes administratifs différents relevant d'administrations différentes. Ça, c'était l'organisation politique. La grande idée a tout de même été une idée culturelle. L'idée qu'il y avait une culture russe qui pouvait être imposée, proposée, une russification, pas autoritaire, mais par l'enseignement. L'enseignement a été toujours une préoccupation de l'Empire et particulièrement de Catherine II. Il y a eu une période d'enseignement missionnaire chrétien en terre d'islam, mais que Catherine II a fait arrêter, car elle trouvait que les conversions et les missions poussaient à l'excès la différenciation entre les peuples. Donc, je dirais l'élaboration de statuts particuliers avec une culture minimale commune à travers la langue russe qui a été développée, qui ne sera imposée à l'ensemble de la société qu'à la fin du XIXe siècle. Jusqu'alors, il y a eu tous les systèmes scolaires possibles et imaginables. Mais la grande idée était au fond de forger un empire différencié, reconnaître la différence pour créer un certain sentiment d'allégeance, un pouvoir qui n'était pas trop pesant, et en associant au maximum les élites locales à ce système d'organisation.
Les autorités trouvent cet équilibre, arrivent à cet équilibre.
Mais écoutez, il a
tout une cohésion.
Oui, il a tout de même bien marché si on regarde les résultats. Jusqu'en 1917, il n'y a pas de révolte. Vous savez, tout de même, les conquêtes se sont succédées. Hein. Alors, il y a un endroit où la conquête a été difficile, c'est au Caucase. C'est la guerre du Caucase qui va de 1801 à 1856, en fait, qui occupe la première moitié du 19e siècle, dont les héros sont les Tchétchènes que l'on connaît très bien désormais, et qui, conduit par un chef daghestanais, Chamil, se sont élevés contre les Russes. Mais c'est un peu une guerre de religion. Chamil était un imam qui voulait faire un état théocratique. Ça a été la seule opération longue et lourde et qui a laissé des séquelles. Mais partout ailleurs, d'abord, la progression russe a été une progression relativement légère pour la Russie. Et à partir de là, l'ordre proposé fait qu'il n'y a pas eu de révolte. Il y a eu, à la fin du XIXe siècle, dans un lieu où on avait eu une révolte, il n'y a pas si longtemps que ça, à Nijan, il y a eu une révolte, chef religieux brandissant le drapeau de l'islam, qui prétendait régénérer le monde musulman. Et à la fin du XIXe siècle, c'est déjà l'époque où l'idée de rénovation islamique circule dans tous les pays dominés. Et ça arrive jusqu'en Russie, forcément, puisque toute cette partie de l'Empire russe, elle est très liée ou à l'Empire ottoman, au mouvement qui agite l'Empire ottoman, à l'ottomanisme, au mouvement jeune turc, à toute la réflexion sur les raisons pour lesquelles l'islam, qui a été un espace glorieux pendant des siècles, est tombé sous la domination de puissances étrangères. Mais en gros, il n'y a pas de révolte. Il faut attendre 1916, la révolte des nomades, parce qu'on veut y établir une certaine conscription, ça n'était pas général. Et surtout, l'appel de Lénine au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est le premier qui a compris qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, si vous voulez, quand ça tient comme ça, c'est tout de même le signe d'une certaine paix. Quand on voit, par exemple, l'Inde avec les diverses révoltes qui ont eu lieu, on se rend compte que le système russe a été beaucoup plus léger.
Alors, il y a un point qui est très intéressant, vous le soulignez, c'est la loyauté, et c'est une loyauté envers le souverain plus qu'envers l'État.
Oui, d'abord parce que dans l'ensemble de la Russie, la notion d'État est une notion tardive, une notion mal comprise de la société. Staline voulait s'appeler le petit père des peuples, ça vient du souverain qui s'appelait Batiushka, c'est-à-dire le père, le petit père, le petit père de la société. Et il y a cette loyauté, on en comprend très bien les ressorts quand on examine la condition de la reddition des Tchétchènes. À l'issue d'un demi-siècle de guerre, l'imam Chamil s'est rendu, il a été accueilli par le souverain russe, qu'il a accueilli comme un frère, absolument. Ça a été tout à fait extraordinaire, qu'il a couvert d'honneurs, de décorations, pour bien marquer que c'était lui, c'était pas à la Russie qu'il se rendait. C'était un frère, un souverain comme lui, même si l'imam Chamil n'était pas un souverain, c'était un chef de guerre. Et Chamil a vécu dans une retraite. En fait, les souverains ont honoré à la fois les sujets conquis et ceux qui étaient leurs représentants. Et comme c'était aussi l'attitude du peuple russe, qui en gros reconnaissait son souverain, il y a eu une véritable loyauté au souverain qui n'a été rompue partiellement qu'avec la révolution de 1905, mais encore très peu, et avec la révolution russe. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les bolcheviks, quand ils ont assassiné l'empereur Nicolas II, n'ont pas voulu que ça se sache. Ils ont préféré garder un silence là-dessus, car ils ont toujours craint une émotion à cette idée. Mais alors, la notion d'État, c'est ça que je voudrais dire. La notion d'État était extraordinairement faible, d'abord parce que l'État russe est un État relativement tardif, qui s'est constitué, je dirais, parce que l'espace sur lequel dominait cet État s'élargissait, qu'il était représenté par ce qui s'appelait au départ les prikazes, c'est-à-dire l'équivalent des premiers ministères, puis par les collèges, par des institutions qui ont aussi évolué au fil des siècles, mais dont les domaines de compétences n'étaient jamais très clairement définis, sauf ce qui était la politique étrangère, la sûreté et les affaires économiques. Donc ça explique, si vous voulez, une certaine méconnaissance de l'État. Il y avait le gouverneur sur place, il y avait les autorités militaires. D'abord, il y avait des régions qui étaient administrées par des autorités militaires. Et à ce moment-là, ce n'était plus l'État, c'était l'armée.
Alors, je reviens peut-être un peu sur la religion. Quelle est la place de l'orthodoxie dans l'Empire russe? L'Église inspire-t-elle l'État?
Alors, c'est une place qui a évolué sous le premier souverain Romanov. Avant, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. L'Église a joué un rôle dans la lutte contre les Tatars, c'est-à-dire que c'est autour des monastères, comme les Tatars. Les Tatars brûlaient les villages, pendaient haut et court les habitants et volaient ce qu'ils pouvaient. Il n'était pas très populaire, mais il y avait un lieu qu'il respectait, c'est très intéressant, parce qu'on croit le contraire. Il respectait les monastères et les églises qu'il ne brûlait pas. Et d'ailleurs, dans le film André Roubloff, on voit le contraire. Mais l'auteur du film ne s'est pas aperçu que c'était une hérésie historique. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui fait que la population s'était réfugiée sous la protection de l'Église. Et ce n'est pas un des chefs de l'émancipation, mais tout de même l'un des chefs de file d'une certaine reconstruction de la Russie après le règne des Tatars, c'est le grand saint russe Saint-Serge de Radonège, qui dans son monastère, qui a été plus tard le siège du patriarcat, ce qui s'appelait Zagorsk autrefois, ce qui s'appelle désormais Troïtsk, la Trinité, Saint-Serge de Radonège avait reconstitué un embryon de société avec des gens qui hébergeaient dans son monastère, des structures économiques. L'État a revécu un petit peu autour des monastères. Et puis, c'est à partir du règne du premier Romanov que les relations entre l'État et l'Église ont été véritablement installées d'une façon très curieuse, puisque le premier prince Romanov, le premier souverain Romanov, comme vous le savez, n'était pas... Il appartenait à une famille de boyards, mais il n'avait aucun titre à régner. Il a été choisi par les boyards. Ils ont été chercher un jeune homme dans un monastère, pas n'importe où, dans un monastère, et qui appartenait à une famille de boyards. Et ce jeune homme était le fils d'un ecclésiastique qui est devenu le patriarche. Il est devenu métropolite d'abord de Moscou et puis le patriarche de la Russie. Et il était sous l'influence de son père. Et le pouvoir a été partagé tout à fait légalement entre l'Église et l'État. C'est-à-dire que tous les actes de l'État étaient co-signés par le souverain et par le prince de Moscou, puis le tsar, il était tsar depuis Ivan le Terrible, et par le patriarche de l'Église de Russie. Ça n'a pris fin qu'avec cette division des tâches qui donnait véritablement une place privilégiée à l'Église de Russie. Elle dominait le pouvoir politique. Ça n'a été achevé que sous Pierre le Grand. Une fois encore, Pierre le Grand haïssait tout ce qui lui paraissait spécifiquement russe. Il a d'ailleurs assassiné son fils ou fait assassiner son fils, précisément parce que son fils était sous l'influence de l'Église. Son fils est héritier, qu'il a fait torturer sous ses yeux. Il le haïssait à cause de cela. Et il a mis fin au patriarcat, créé le Saint-Synode, qui était une administration, une sorte de ministère des cultes, une administration de l'Église, qu'il a placé complètement sous l'autorité de l'Église en 1721. Et ce système, c'est qui unit l'Église. Il y avait union de l'Église et de l'État, mais au bénéfice de l'Église, avant 1721, il y a une Église soumise à l'État à partir de 1721, et cela durera jusqu'en 1917. En 1916 se réunit un très grand concile de l'Église orthodoxe qui a prononcé, c'est un concile, c'est un peu le Vatican II de l'Église orthodoxe, c'est même tout à fait le Vatican II, un concile d'une extraordinaire importance, qui a prononcé la séparation de l'Église et de l'État au moment où commence la révolution bolchevique, c'est ce qui a interrompu le concile. Mais on peut dire que l'idée qui cheminait était que l'Église devait retrouver son indépendance.
Alors, malgré cela, Moscou apparaît véritablement, vous le dites à plusieurs reprises, comme la troisième Rome. C'est vraiment...
Alors ça, c'est l'idéologie. Ça, c'est l'idéologie de l'État qui s'est développée depuis Ivan le Terrible, d'ailleurs, et qui a duré. C'est-à-dire que l'idée qu'il a emportée, après la chute de Byzance, c'est que l'autre centre de la chrétienté ayant disparu, c'est à la Russie qu'incombait ce rôle. Et on peut dire que ça a imprégné très fortement une sorte d'idéologie de la Russie. Et c'était surtout extrêmement utile, parce que la Russie avait la prétention, une fois qu'elle est devenue un grand pays, elle a eu les prétentions d'intervenir. Il ne faut pas oublier que son grand adversaire, c'était l'Empire ottoman, parce que là, il était voisin de ses possessions. Et elle s'est voulue protectrice des États chrétiens. Et Troisième Rome, elle pensait avoir la vocation à rassembler les États chrétiens des Balkans. Et ça a été un des grands débats du Congrès de Paris qui a mis fin à la guerre de Crimée. Et la guerre de Crimée a été largement déclenchée par les prétentions russes à ce protectorat sur les chrétiens des Balkans.
Alors, nous arrivons à la fin du XIXe siècle. L'Europe, vous le dites, est fascinée par cette Russie. Pourtant, est-ce un mirage, cette Russie unie? C'est ce que je vous propose de voir, Hélène Carrère-Dancos, après une dernière pause. À tout de suite.
Un événement,
une association,
une œuvre,
une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire,
en direct ou en médiathèque,
sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à l'Empire de Razie. L'Empire de Razie est le titre du dernier livre d'Hélène Carrère-Dancos que j'ai l'honneur de recevoir ce soir, une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours. Alors, vous vous posez une question au milieu de votre ouvrage, parce que, bien évidemment, après la révolution de 1917, vous évoquez la Pax Sovietica, vous montrez le développement du communisme et du totalitarisme, mais à la veille de la révolution russe, 1917, vous vous posez la question de savoir si, au fond, cette unité russe n'est pas un mirage.
Oui, et pour une raison, c'est qu'il ne faut tout de même pas oublier que le 19e siècle a été le siècle d'un réveil des peuples dans toute l'Europe. 1848, il y a un mouvement qui agite. D'abord, la Russie, ayant absorbé une partie de la Pologne, a toujours été victime de cette partie de la Pologne. Jean-Jacques Rousseau le disait, c'est très bien de l'avoir avalée, mais pour la digérer, c'est une autre affaire. Et c'est la stricte vérité. Les mouvements d'indépendance de la Pologne ont très lourdement pesé sur la Russie. Et il y a un très grand débat en Russie à partir du début du 19e siècle. C'est le débat des sambristes qui sont inspirés des idées de la Révolution française, de toutes ces idées d'émancipation, pour qui se pose la question, non pas, je dirais, d'une désimpérialisation, mais la question de l'organisation de cet espace. Et la notion qui commence à circuler dès le début du XIXe siècle, et c'est très important, c'est l'idée d'une fédéralisation. À la place de cet empire unitaire, avec ses souplesses, mais qui est tout de même un empire unitaire, un certain nombre de décembristes, les plus avancés intellectuellement, ont proposé une fédéralisation de l'empire.
Débat un peu comparable au débat autrichien.
Absolument. Et d'ailleurs, ils en débattent au XIXe siècle, mais c'est un débat qui va traverser tout le siècle et qui va être renforcé tout de même, d'abord par, une fois encore, les révoltes de la Pologne ont joué un rôle, parce que ça ébranle considérablement. La Pologne est dans l'Empire russe, c'est un choc à chaque fois. 1863, la révolte écrasée pour les élites russes, les élites novatrices, les élites réformatrices. C'est un choc que de voir leur pays écrasé. La question réforme ou transformation de l'Empire est une question qui court comme un fil rouge dans cette Russie. Et puis, la fin du 19e siècle et le 20e est marquée par l'apparition du marxisme, le débat autrichien. Et l'Empire austro-hongrois s'engage dans la voie lui-même d'une adaptation, d'une plus grande souplesse à l'égard des nationalités. Le débat sur les nationalités, c'est toute l'histoire de cette partie de l'Europe. À la fin du 19e siècle, le marxisme qui apparaît, qui succède à tous les mouvements d'idées qui avaient existé jusqu'alors, qui prend une grande force en Russie, qui s'installe dans les confins, notamment au Caucase, qui est un des noyaux du marxisme, entraîne des débats où les Autrichiens, comme Otto Bauer et Kautsky, ont joué un très grand rôle par l'influence qu'ils exercent sur le Caucase, et c'est sur la volonté, une certaine volonté émancipatrice qui se développe sous leur influence. Et puis, dans tout l'ensemble musulman, il y a l'influence des transformations qui s'opèrent dans le reste du monde, d'une certaine volonté d'émancipation. Alors, ce qui a été un coup de tonnerre et que le monde occidental n'a pas compris, c'est la guerre russo-japonaise. La guerre russo-japonaise, 1904, la défaite de la Russie. Le monde occidental n'a pas saisi ce que ça signifiait. Mais dans toute la périphérie de l'Empire russe, alors là, les sujets de l'Empire russe en ont tiré le constat extrêmement clair que ça voulait dire que l'Empire n'était qu'un géant au pied d'argile et que probablement c'était la fin des systèmes coloniaux. D'ailleurs, toute la périphérie de l'Empire russe et dans le monde musulman extérieur, l'écho en a été absolument considérable. Dans l'Afghanistan voisin, il y a à ce moment-là un journal qui paraît avec une manchette qui dit « L'Asie aux Asiatiques, l'Afghanistan, c'est la frontière de l'Empire russe ». Et à partir de 1904, pour les sujets de l'Empire russe, ça veut dire que l'Empire va faire son déclin. Alors que le monde occidental n'a pas compris et continue à croire que l'Empire russe est très puissant. Et un signe de ça, c'est l'ampleur des investissements français en Russie qui se poursuit, alors que le pays court déjà à une certaine décomposition. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que s'il n'y avait pas eu la guerre et la révolution, le système aurait pu tenir? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je crois que le développement économique de la Russie entre 1880 et 1914, qui atteint toute la périphérie, un grand progrès intellectuel, aurait peut-être permis, en tout cas, ça faisait évoluer la Russie à très vive allure. Ça faisait évoluer à très vive allure, mais ça créait un prolétariat industriel, non seulement dans le cœur de la Russie, mais au Caucase, même en Asie centrale. Ça posait des problèmes de transformation sociale que le régime n'arrivait pas à incorporer extrêmement vite. Il y a donc à cette époque-là une course de vitesse entre les idées novatrices, la transformation sociale et un empire qui n'est pas prêt à céder du terrain. D'une certaine façon, la Première Guerre mondiale a détruit l'Empire et la Révolution s'est glissée dans les interstices. Mais il y a peut-être une autre réponse quand on regarde la suite. Les bolcheviks, qui n'étaient jamais que 20 000, 16 900 quand ils ont pris le pouvoir, ils ont réussi, et après avoir proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en 3 ans, ils ont reconquis tout l'espace de l'ancien Empire, exception faite de la Pologne et de la Finlande, et des États baltes que l'État soviétique se réappropriera par la suite. Et ils l'ont reconquis assez facilement, ce qui prouve que l'ampleur de ces indignations, l'ampleur des mouvements nationaux ne suffisait pas à détruire complètement l'Empire. C'est la guerre qui l'a fait.
Oui, et quelle place, alors, parallèlement à la guerre, occupe Nicolas II? Vous écrivez, il pensait à tort que l'espace impérial tenait lieu de réserve à la monarchie.
Oui, il était convaincu que c'était ça qui comptait, que c'était le point d'appui et que c'est ça qui permettrait de tenir. Et il a été extraordinairement aveugle aux mouvements qui agitaient les populations de la périphérie, qui n'étaient pas des mouvements populaires, qui étaient des mouvements des élites, mais il ne s'est pas lancé dans des transformations. Il a été vraiment l'héritier de son père, d'Alexandre III, traumatisé par la mort de son propre père, qui a été déchiqueté par une bombe, qui était tout de même le tsar réformateur et qui réformait les structures de l'État aussi. Alexandre III a voulu russifier, et la réponse et d'Alexandre III et de Nicolas II, ça a été la russification, l'unification la plus totale. Évidemment, à l'heure de l'épreuve, ça n'a pas fonctionné. Mais enfin, une fois encore, il faut dire qu'il n'y a pas eu de défection militaire à la périphérie. C'est Lénine qui a proclamé que la défaite de la Russie était une nécessité pour faire la révolution.
Alors, Hélène Carrère d'Encausse, faisons, si vous le voulez bien, un bond dans le temps. Laissons la période communiste. Arrivons en 1992. Est-ce que l'Empire russe perdure après?
D'abord, l'Empire n'existe plus. Territorialement, une partie s'en est allée, puisque l'espace soviétique faisait 22 millions de kilomètres carrés. L'espace russe, aujourd'hui, n'en fait que 17 millions. Et sont partis vers des destins indépendants tous les États d'Asie centrale, les États du Caucase, les États baltes, l'Ukraine. Bon, reste tout de même, d'abord, un fait, c'est que la Russie reste peuplée. La Russie, maintenant, est peuplée de 80% de Russes, mais 20% viennent des anciens espaces de la périphérie. Ça, c'est une première chose, des anciennes possessions. Donc, si vous voulez, un cinquième de la population, c'est l'héritage de l'Empire et principalement, d'ailleurs, des Ukrainiens. Deuxièmement, il y a dans la périphérie de l'ancien Empire, dans ce qu'on appelle l'étranger proche, des Russes qui y sont restés et qui représentaient 25 millions à l'heure de l'indépendance, qui le nombre a baissé parce qu'ils veulent retourner en Russie. Et puis à l'intérieur de l'espace russe, ben il reste toujours, il reste toute la Volga musulmane, il reste les peuples du Nord-Caucase qui sont des peuples musulmans. Les frontières de la Russie actuelle sont les frontières de ce qui était la République fédérative de Russie sous le système soviétique et comportent tout de même une population extrêmement hétérogène, beaucoup moins nombreuse numériquement qu'avant, puisqu'avant la proportion était 50-50, c'est maintenant c'est 20%, mais c'est tout de même extrêmement important. Alors, le reste de l'ancien empire, ça se voit surtout en Tchétchénie, dans la guerre de Tchétchénie qui reproduit, qui fait revivre la guerre du 19e siècle. Le reste, on peut dire qu'une cohabitation s'est installée, mais si la Russie tient, c'est parce qu'elle sait une fois encore composer. C'est ça qui est très intéressant. L'une des grandes entités islamiques héritées du passé, l'entité tatare, est une entité, la République tatare, qui a 7 millions d'habitants, c'est pas n'importe quoi. La Russie est aujourd'hui une fédération, mais dans une fédération, l'ensemble fédéral, la loi fédérale domine les sujets, ça s'appelle en Russie les sujets de la fédération. Le président tatar, il considère que sa loi domine la loi de la fédération. Il considère que l'islam, c'est la loi de sa république, que la langue de sa république, c'est le tatar, il ne veut pas le russe. Et il avait lutté pour établir l'alphabet arabe, et puis il a dit, on va se servir de l'alphabet latin. Vous voyez que, je dirais, et la Russie, une fois encore, accepte le compromis pour garder l'équilibre.
Vous dites, dans votre ultime chapitre, la Russie sort seule de l'Empire, elle est condamnée à s'inventer un destin étatique que depuis le XVIe siècle, elle n'a jamais connu.
Non, elle n'a jamais connu parce qu'elle a eu un destin impérial. Et jamais, on ne disait pas en Russie, la Russie. On disait l'Empire de Russie. Donc c'était très difficile de se définir. L'État a toujours été faible. Ce qui était puissant, c'était le pouvoir, ce n'était pas l'État. Et sous le régime soviétique, il n'y avait pas d'État du tout, c'était un parti. Donc la Russie doit tout inventer, elle doit inventer une identité, parce que qu'est-ce que c'est que l'identité russe? Alors que la Russie est née à Kiev. Kiev, c'est l'Ukraine qui ne veut pas entendre parler de la Russie. Alors que l'histoire russe s'est battue pour arriver sur les bords de la Baltique et sur les bords de la mer Noire. Les bords de la mer Noire sont perdus, sur la Baltique, il y a juste un tout petit port et puis c'est tout. Mais les États baltes sont indépendants. Donc on peut dire que le destin, tout ce qui a été le destin de la Russie, lui est arraché, elle doit se trouver une identité. Et c'est là que se pose le problème de l'Eurasie. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est pluriethnique, comme elle l'a toujours été. Elle est à cheval sur l'Europe et l'Asie. Elle se définit difficilement, pays européen. Si elle se définit comme pays européen, elle renie toute la partie orientale. Elle tend à se définir de plus en plus comme un pays pas comme les autres, comme l'Eurasie, comme une Russie eurasienne. Et la quête d'identité n'est pas terminée. Mais elle se passe dans la, je dirais, dans le compromis, j'y reviens, dans le compromis avec ceux qui ne sont pas des Russes, car c'est à ce prix-là qu'ils acceptent d'être des sujets de la Russie.
Eh bien, c'est sur ce caractère eurasiatique que nous allons nous quitter. Hélène Carrère-Dancausse, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, L'Empire d'Eurasie, une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours, paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.